Un journal présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Une scène historique au tribunal judiciaire de Paris. Un ancien président à la barre des prévenus, Nicolas Sarkozy, jugé pour corruption et trafic d'influence, a clamé son innocence. Il espère, je cite, être lavé de cette infamie. L'heure du réquisitoire dans le procès des attentats de janvier 2015. Les 14 accusés sont jugés pour le soutien logistique qu'ils auraient apporté aux responsables des attentats de Charlie, Montrouge et l'Hypercacher. Le maire socialiste de Montpellier, Michael Delafosse, s'oppose à la vente de la mosquée de la Payade au Maroc. Le futur projet de loi contre les séparatismes prévoit de mettre un terme aux tutelles étrangères sur les mosquées françaises. La visite controversée du président égyptien à Paris. Selon Amnesty, le régime d'Abdel Fattah al-Sissi a exécuté une soixantaine de personnes en deux mois. Emmanuel Macron a timidement abordé la question des droits de l'homme avec son homologue égyptien aujourd'hui. À la fin de ce journal, nous reviendrons sur la conférence de presse du directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui vient de débuter. La forte circulation du virus en France pourrait remettre en cause le déconfinement partiel prévu le 15 décembre. L'événement est historique sous la Ve République. Un ancien président qui comparaît à la barre d'un tribunal, Nicolas Sarkozy, est interrogé cet après-midi dans le cadre de son procès pour corruption et trafic d'influence. À ses côtés, deux autres prévenus, son avocat Thierry Herzog et l'ex-haut magistrat Gilbert Azibert. Dans cette affaire dite des écoutes, la justice soupçonne un pacte de corruption entre Nicolas Sarkozy et Gilbert Azibert en marge de l'affaire Bettencourt. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Vous suivez ce procès pour France Culture. L'ancien chef de l'État, qui a promis de répondre à toutes les questions, a clamé son innocence.
Oui, l'ancien président est arrivé au tribunal concentré avec une pochette bleue cartonnée contenant visiblement son argumentaire. Il est entouré des siens, ses fils, Pierre et Jean, ainsi qu'une de leurs tantes assis derrière lui sur le banc dans le public. Nicolas Sarkozy relit ses notes pendant que le tribunal tente sans succès de faire diffuser à l'audio 5 conversations de la ligne Bismuth. C'est donc la présidente Christine May qui lit à haute voix les extraits qui ont construit l'accusation avant de faire venir à la barre l'ex-chef de l'État. L'avocat de profession bouillonne et se défend en faisant beaucoup de grands gestes. Vous avez devant vous un homme dont plus de 3700 conversations privées ont été entendues. Mes enfants, ma femme, mes médecins, mes amis politiques et mon avocat. Le résultat, sur 3700 conversations, on a trouvé 5 conversations avec mon avocat. Puis il gronde contre la débauche de moyens dans cette instruction pour corruption et trafic d'influence, contre l'enquête préliminaire controversée qu'on lui a cachée. Je n'ai pas le droit d'être au-dessus des lois, mais on n'a pas à me mettre en dessous en me privant d'éléments aussi important pour ma défense, explique-t-il. Puis la présidente questionne, on vous entend souvent demander à Thierry Herzog d'appeler Gilbert Azibert pour avoir des éléments sur votre pourvoi. Nicolas Sarkozy répond avec un ton plus sourd, je vous demande de me croire, pour moi, la cour de cassation c'était un peu comme un club, je voulais juste avoir des bruits de couloir. Il raconte l'année 2014, chargée en rebondissements judiciaires, ses angoisses, avant de livrer sa version des faits. L'histoire Bismuth, c'est ça, un justiciable inquiet, un avocat affectueux qui le rassure et c'est tout. Formule bien placée avant la suspension d'audience.
Anne Fauquemberg, merci, avec Thibaut Nassimben pour les moyens techniques. On reste au nouveau palais de justice de Paris pour un autre procès qui n'a rien à voir avec le précédent, celui des attentats de janvier 2015. La cour d'assises spéciale juge 14 accusés, 3 sont absents à l'audience, tous soupçonnés d'avoir apporté un soutien logistique aux djihadistes responsables des attentats de Charlie, de Montrouge et de l'Hypercacher. Pendant le procès, la terreur islamiste a continué à frapper la France, à Paris, à Conflans et à Nice. Et c'est dans ce climat alourdi qu'a débuté aujourd'hui le réquisitoire. Bonsoir Florence Turne.
Bonsoir.
Florence, il s'agit d'un réquisitoire à deux voix, celle des deux avocats généraux qui annonceront demain les peines requises.
Il y a des événements qui vous marquent à vie, des procès qui font trembler la voix. Julie Holweck a choisi d'ouvrir son réquisitoire en laissant filtrer sa propre émotion, chose plutôt rare dans la bouche d'un avocat général. Depuis le 2 septembre, nous avons tous vécu cette interminable attente, cette souffrance, cette douleur. Elle pense aux victimes, mais elle-même était de permanence le 7 janvier 2015 et elle garde en mémoire cette loge de gardiens transformée en scène d'horreur, cet amoncellement de corps, ces 4 âmes prises en moins de 15 minutes à l'Hypercacher, l'odeur du sang mêlée à cette odeur de poudre, l'odeur métallique de la mort. Elle se refuse à parler d'un procès historique, expression maintes fois répétée, mais pour elle vide de sens. Non, ces attentats sont plus que jamais un rendez-vous avec l'histoire, un tremblement de terre dont nous avons senti les répliques à 3 reprises durant ce procès. Les frères Kouachi et Koulibaly nous ont volé notre bien le plus précieux, la sécurité, poursuit-elle. Il n'est pas question de faire payer aux vivants les faits des morts, mais de punir les vivants pour leur participation aux actes commis par les morts. Ils sont 11 accusés présents dans le box qui nient tous leur connaissance préalable des projets terroristes. Depuis ce matin, l'accusation s'emploie à démontrer le contraire, point par point, avec toujours au centre des enjeux juridiques de ce procès la qualification d'association de malfaiteurs terroristes. Il n'est pas nécessaire, rappelle la magistrate, de connaître les contours précis de ces projets pour qu'elles soient constituées. Et elle représente un crime passible de 20 ans de réclusion.
Florence Thuam en direct du Palais de Justice de Paris avec les moyens techniques de Yves Lehors. Dans l'enquête sur l'attentat de la basilique Notre-Dame de Nice, le djihadiste Brahim Aouissaoui a été mis en examen pour assassinat et écroué aujourd'hui. Ce clandestin tunisien avait sauvagement assassiné 2 femmes qui priaient et le sacristain le 29 octobre dernier. Gravement blessé lors de son interpellation, Aouissaoui avait été hospitalisé. L'amélioration de son état de santé a permis son interrogatoire, préalable nécessaire à sa mise en examen et son incarcération. C'est dans ce contexte d'attentats islamistes récurrents que s'inscrit le projet de loi contre les séparatismes. Le texte qui vise officiellement à conforter les principes républicains sera présenté mercredi en Conseil des ministres et l'un de ses objectifs est d'en finir avec les tutelles étrangères sur les mosquées françaises. À Montpellier, le nouveau maire socialiste a pris les devants. Michael Delafosse s'oppose à l'éventuel rachat de la mosquée Averroès dans le quartier de la Paillade par le Royaume du Maroc. Un dossier suivi par Antoine Marette.
C'est un peu par hasard, via un document administratif, que le maire de Montpellier a fait cette découverte. La mosquée Averroès devait être vendue pour 1 € symbolique à l'Union des mosquées de France, une structure adossée au Maroc. Inadmissible pour Michael Delafosse.
Je m'oppose à cette idée que ce sont les États étrangers qui organise dans la ville de Montpellier le culte.
Le président de l'UMF, Mohamed Moussaoui, n'a pas donné suite à nos demandes d'interview, mais dans un SMS, il explique que c'est la mosquée de Montpellier qui a sollicité le Maroc pour en fait financer des travaux d'agrandissement et que le Maroc n'a pas encore donné suite, une version contestée par Michael Delafosse.
Je trouve que leurs propos ne sont pas très rigoureux et ça me préoccupe. Parce que moi, j'ai un document administratif qui dit très clairement les choses. Signé par le représentant de la grande mosquée Averroès, c'est donc l'État marocain, une puissance étrangère, qui se porte acquéreur pour 1 € d'une mosquée de Montpellier. Et j'ai jusqu'au 16 décembre pour me prononcer. Donc nous en avons eu connaissance il y a 10 jours. Et donc, si nous n'avions pas vu, au 16 décembre, au matin, la vente était engagée.
Le maire va donc faire jouer son droit de préemption pour empêcher cette vente. Et face à cette opposition, de toute façon, Mohamed Moussaoui ajoute que la demande d'association sera sans doute rejetée par le Maroc.
Antoine Marette, merci. Dans l'actualité économique et sociale, les regroupements s'accélèrent dans le secteur de la banque de détail en France. Les réseaux bancaires Société Générale et Crédit du Nord vont fusionner. Le projet du propriétaire, le groupe Société Générale, va se traduire par la fermeture de 600 agences. Mais il n'y aura aucun licenciement, aucun départ contraint. Assure la direction du groupe. On fait le point avec vous, Marie Viennou.
La réduction du nombre d'agences n'est pas une tendance nouvelle. Elle est accélérée par le recours de plus en plus fréquent des clients aux services en ligne. En 2013, Société Générale et Crédit du Nord totalisaient 3100 agences. Il y en a donc 1000 de moins aujourd'hui, avant la fusion, et 600 de moins demain, quand cette fusion sera effective. Dans 70% des cas, des agences Crédit du Nord et Société Générale sont à moins d'1 km, explique la direction. Le premier critère de fermeture sera donc la proximité entre 2 agences, puis la qualité de l'emplacement, les locaux, leur capacité à accueillir d'autres conseillers. Il n'y aura aucun licenciement, promet la Société Générale. Les départs naturels en retraite, 1500 par an, seront mis à contribution et le personnel et ses représentants consulté pour mener cette transformation qui répond, explique la direction de la Société Générale, à un triple objectif: offrir une meilleure rentabilité aux actionnaires, un meilleur service aux clients et concentrer les moyens informatiques aujourd'hui cruciaux pour rester dans la course aux services bancaires de demain. Cette fusion ne concerne pas que les agences, mais aussi les services centraux des deux banques, d'où l'inquiétude des syndicats qui estiment que 5 000 à 7 000 postes pourraient être supprimés à terme. Pour le moment, la Société Générale n'a pas encore décidé ce qu'elle ferait des différentes enseignes du réseau Crédit du Nord. Banque Courtois, Banque Tarnot, Société Marseillaise de Crédit, etc. Adopteront-elles le logo rouge et noir? Sujet sensible. Pour le moment, la stratégie de marque du futur ensemble fusionné n'est pas encore arrêtée.
Marie Vienno, merci. Les assureurs ont reculé face au gouvernement. Il n'y aura pas de hausse de cotisation pour les hôtels, cafés et restaurants l'an prochain. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a même obtenu que le gel des tarifs concerne davantage de secteurs en difficulté, pour les PME jusqu'à 250 salariés. Alors qu'en pensent les professionnels qui continuent souvent à manifester pour réclamer un meilleur soutien de l'État face à la crise sanitaire? Plusieurs centaines d'entre eux ont défilé aujourd'hui à Lyon. C'est un reportage de Mathilde Imberti.
De grandes banderoles, laissez-nous travailler, des camions sonorisés pour l'ambiance. On est venu de toute la région jusqu'à Lyon aujourd'hui. Et l'annonce du jour, les assureurs qui concèdent un gel des primes aux secteurs les plus touchés. Cette annonce laisse de marbre Emmanuel Estival, restaurateur à Châteauneuf-les-Bains dans le Puy-de-Dôme.
Ouais, mais enfin, bon, la perte d'exploitation, c'est 2020 quand même, c'est pas 2021. Ça veut dire pas augmenter la prime. On va dire c'est du foutage de gueule, mais pas loin, quoi.
Pas tellement plus tendre, Brice Etienne, vice-président de l'UPSE, les professionnels de l'événementiel. Le geste des assureurs s'étend à son secteur aussi.
Bah, c'était effectivement le minimum qu'on attendait. De toute manière, s'ils n'avaient pas accepté ce strict minimum, ils auraient été contraints à une amende qui était 3 fois plus importante que ce qu'elle allait leur coûter. Donc, a priori, ça n'est que le gel de l'augmentation qu'ils auraient fait en 2021. Mais ça n'empêche pas qu'en 2022, ils puissent se rattraper du double. Hein.
Dans le cortège, on dit craindre tout simplement pour la survie des établissements. Raymond Lafont tient un restaurant dans le village de Ozon en Ardèche. Il est responsable pour le département de l'UMI, l'Union des métiers de l'hôtellerie.
On nous dit, on nous gèle les... Oui, bah, si on n'a rien de mieux, si toujours la perte d'exploitation pour la pandémie n'est pas prise en compte, ça nous fait belle jambe. Il faudra encore qu'on soit là l'année prochaine.
Voilà pour ce reportage de Mathilde Imberti dans la manifestation des hôteliers-restaurateurs aujourd'hui à Lyon. Un an de coronavirus, la Chine sort-elle plus forte de la crise? C'est la question que posera Emmanuel Laurentin à ses invités dans le temps du débat, juste après ce journal. C'est une visite qui ne passe pas chez les défenseurs des droits de l'homme. Le président égyptien est à Paris aujourd'hui. Abdel Fattah el-Sissi a été reçu par Emmanuel Macron et les deux hommes ont ensuite tenu une conférence de presse commune. Amnesty International dénonçait la semaine dernière une frénésie d'exécution en Égypte. Au moins 57 prisonniers exécutés depuis début octobre selon l'ONG. Sous prétexte de lutter contre l'islamisme, le régime égyptien chercherait à museler toutes les oppositions démocratiques. Emmanuel Macron a timidement évoqué la question des droits de l'homme tout à l'heure. La place de la religion dans la société a également été abordée. Et le moins que l'on puisse dire, Bertrand Galichet, c'est que la conception égyptienne de la religion se heurte à la laïcité française.
Malgré les accusations d'atteinte aux droits de l'homme, Abdel Fattah el-Sissi n'a rien concédé aujourd'hui, démentant tout aspect oppressif du régime qu'il dirige. Le président égyptien met en avant le besoin de stabilité dans une région troublée face à un Emmanuel Macron qui veut être l'avocat d'une ouverture démocratique.
Je cherche toujours à convaincre qu'une société civile, je le disais, dynamique, inclusive, où chacun est représenté, est plus protectrice de tout risque de terrorisme que la répression politique.
Le président français assume les désaccords avec son homologue, mais pas question pour la France de conditionner les livraisons d'armes à l'Égypte à des exigences en matière de droits de l'homme. Le chef de l'État remercie son homologue égyptien pour sa visite à Paris après les campagnes anti-françaises dans le monde musulman. Pourtant, Abdel Fattah el-Sissi affirme que les valeurs religieuses doivent primer sur les valeurs humaines, d'où une mise au point d'Emmanuel Macron.
C'est sans doute là où il y a un risque de balbutiement de notre histoire. Nous considérons que La valeur de l'homme est supérieure à tout. C'est l'apport de la philosophie des Lumières. Et donc, à cela, il y a en effet le respect des uns à l'égard des autres. Mais dans l'ordre du politique, le religieux n'entre pas.
Un étrange débat philosophique de plusieurs minutes entre les deux chefs d'État et qui n'était pas au programme.
Bertrand Galichet, merci. Le feuilleton du Brexit prendra-t-il fin le 31 décembre comme prévu? C'est l'ambition du gouvernement britannique qui a exclu aujourd'hui de prolonger les négociations commerciales avec l'Union européenne en 2021. Les deux parties restent déterminées à trouver un accord avant la fin de l'année. En tout cas, c'est le discours tenu à la fois à Londres et à Bruxelles. Bonsoir Richard Place.
Bonsoir Stanislas.
En direct de Londres, Richard, le gouvernement britannique qui affiche sa fermeté face à l'Union européenne.
Oui, puisque les autorités promettent aujourd'hui des décisions définitives dans les prochains jours. Décisions définitives, ce qui peut vouloir dire un accord ou un constat d'échec, est le fameux no deal. Les parlements européens, mais aussi britanniques, vont de toute façon devoir analyser s'il y a un accord. Des centaines de pages, le document final pourrait en compter 700, à étudier en détail avant de le voter, avant la fin de l'année. Trois points de blocage persistent, toujours les mêmes, la pêche, symbolique, mais le poids économique est faible, les garanties pour une concurrence équilibrée, et l'arbitrage de futurs différents mécanismes juridiques extrêmement compliqués à mettre en place. Et puis, souvenez-vous, en septembre dernier, Boris Johnson et sa majorité avaient fâché tout le monde en proposant un texte de loi qui permettait de remettre en cause l'accord signé avec l'Europe moins d'un an plus tôt, dénoncer sa signature du jamais vu dans les relations internationales. Ce texte doit être à nouveau discuté et voté au Parlement britannique ce soir, et l'on vient d'apprendre que le gouvernement serait prêt à retirer les articles polémiques. Des discussions ont eu lieu en parallèle entre Bruxelles et Londres à ce sujet. Discussions qui semblent donc aller dans le bon sens du point de vue anglais. C'est un détail, mais qui a son importance, bien sûr. Une inflexion même légère qui peut être perçue comme un signe de détente.
Merci Richard Place, correspondant au Royaume-Uni en direct de Londres. Et j'ajoute qu'une vidéoconférence s'est tenue tout à l'heure entre la chancelière allemande Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron et les chefs de l'Union européenne. Une vidéoconférence consacrée justement à ces négociations sur le Brexit. L'Union européenne ne reconnaît pas les résultats des élections législatives organisées hier au Venezuela. Élections remportées par les candidats du président Maduro, mais élections boycotté par l'opposition vénézuélienne. L'UE ne juge pas crédible le processus électoral. Le manque de respect du pluralisme politique, la disqualification et la poursuite des dirigeants de l'opposition ne permettent pas à l'UE de reconnaître ce processus électoral comme crédible. Voilà ce que déclare ce soir Josep Borrell, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Quand Bob Dylan devient une valeur refuge pour les géants de l'industrie musicale, Blowing in the Wind, Like a Rolling Stone ou encore Shelter from the Storm, l'intégralité du catalogue de Bob Dylan a été rachetée par le groupe Universal Music, propriété du français Vivendi. L'accord couvre plus de 600 titres, certains entrés dans la légende, et ce serait le plus important du genre jamais signé, avec une acquisition qui dépasserait les 300 millions de dollars selon le New York Times. Loïc Loury Il nous appelle de New York.
I'm out here a thousand miles from my home. En 1962, Bob Dylan, la toute petite vingtaine, signait son premier contrat chez Leeds Music Publishing, une centaine de dollars à peine, contre les futures royalties de ses premières chansons. Plus d'un demi-siècle plus tard, le songwriter de 79 ans, Nobel de littérature, a vendu 125 millions d'albums et écrit surtout plus de 600 chansons, dont des dizaines entrées au Panthéon. Well, it ain't no use sitting and wonder why, babe. Even you don't know by now. Un trésor presque inestimable et un prix d'achat à l'avenant, plus de 300 millions de dollars selon la presse pour l'intégralité du catalogue. À l'heure du streaming triomphant, Universal entre ainsi en possession d'une source majeure de revenus, d'autant plus que Bob Dylan rejouait, réécoutait encore et encore résiste au temps. Le label estime ainsi que ses chansons ont été reprises plus de 6000 fois. Son patron assure que Bob Dylan continuera à être joué, chanté, chéri dans les décennies et les siècles à venir.
Pistol shots ring out in a barroom night. Into Betty Bailey. Voilà pour cette correspondance de Loïc Loury à New York à propos de la vente du catalogue Bob Dylan au groupe Universal Music, propriété du français Vivendi. Je vous le disais dans les titres de ce journal, le directeur général de la santé Jérôme Salomon tient en ce moment une conférence de presse qui n'était pas prévue initialement, mais la situation sanitaire reste préoccupante en France. Le nombre quotidien de contaminations est supérieur à 10 000, loin de l'objectif affiché par Emmanuel Macron pour déconfiner le pays à la mi-décembre. 5000 contaminations quotidiennes. Nous reviendrons sur cette conférence de presse de Jérôme Salomon à 22h dans notre prochain journal. Un mot du temps demain, gris et froid, il neigera sur l'ensemble des massifs montagneux. La Lozère est en vigilance orange, neige et verglas. Il pleuvra sur les régions méditerranéennes. Les températures minimales iront de moins 2 à 6 degrés du nord-est à la Méditerranée. L'après-midi, il fera de 3 à 14 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.